émission radio active.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Radioactive, une émission portée par l'association Arbué et diffusée sur antenne de Radio Campus Rennes, sur la fréquence hertzienne 88.4, je répète 88.4. Pour des raisons techniques, ceci n'est pas une émission en direct, mais sachez que nous serons tous accrochés à nos récepteurs radio ainsi qu'à l'internet le moment venu. Dans le cadre de la semaine de l'environnement, notre émission sera exceptionnelle. Nous sommes actuellement sur la dalle Kennedy. Émission exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Aujourd'hui, grâce à un plateau extérieur, nous allons pouvoir interagir directement avec notre public. Nous avons avec nous Anouk qui va nous parler d'entretien de thé et de canapé.
Oui, bonjour à tous. Je vous invite donc à venir sur les petits fauteuils situés à côté du studio radio pour une interview totalement décalée, pour laisser place à l'imagination. On va parler environnement, bien sûr, mais de plein d'autres choses, Google, du TAFTA, enfin de tout ce qu'on a pu voir pendant la semaine de l'environnement, toutes les réflexions qu'on a pu avoir durant cette semaine de l'environnement.
Merci Anouk. Nous avons également Elsa qui va nous animer des ateliers d'écriture radiophonique. Dis-nous en plus.
Oui, bonjour. Donc voilà, j'appelle tous les gens qui sont sur la dalle actuellement, qui veulent venir dire quelque chose à la radio, à participer à un petit atelier avant pour écrire un peu un petit texte, pour organiser un peu ses idées et ensuite venir les dire au micro. Voilà.
Très bien, merci. Nous avons également à la technique, à la captation d'ambiance et autres joyeuseries, notre ami Lucas.
Salut à tous. Oui, je suis bien là. Donc voilà, moi je serai pas mal à la technique cet après-midi. On va essayer, si c'est possible, d'essayer de faire des petites interviews des gens qui sont sur la dalle. Voilà, d'essayer de retransmettre un peu ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de trucs et du coup ça va être intéressant peut-être d'avoir des retours des gens qui sont ici.
Super, et moi-même j'organiserai un quiz nature quelque peu foufou à 16h. Donc je vais donner tout de suite la parole à nos amis organisateurs et organisatrices de la semaine de l'environnement pour qu'ils nous parlent un peu plus du lieu auquel on est et des dynamiques de cet après-midi.
Alors bonjour, moi je suis Paul, je fais partie des organisateurs de la semaine de l'environnement et du coup dans le cadre de cette semaine on a choisi de faire une action sur la dalle Kennedy. L'idée de cette action c'était de proposer des animations qui puissent toucher à la fois les adultes et les enfants. Donc c'est pour ça qu'il y a une grande variété d'intervenants présents ici aujourd'hui. Voilà.
Du coup, moi, c'est Yuna, je suis dans l'organisation aussi de la semaine de l'environnement et du coup, je vais vous expliquer ce qui se passe sur la dalle aujourd'hui. Donc, depuis midi, on est là et on a, tout d'abord, on a commencé par faire du coup le repas. Donc, il y a des galettes et des crêpes qui sont proposées pendant toute l'après-midi. Ensuite, on a aussi du coup une équipe de super presseurs de fruits et de jus frais et bio qui sont avec nous sur la dalle. En continu, on a Meilleur Devenir qui est une association franco-togolaise qui nous propose du coup des jeux autour de la répartition et la consommation d'eau dans le monde qui est principalement pour les enfants. Ensuite, on a Tripalium. Du coup, c'est une drôle de machine. Un vélo qui fait de l'électricité. Donc, il est là, on peut lui poser des questions. La machine aussi est sur la dalle Kennedy. On a également AVSF, qui est du coup une association des agronomes et vétérinaires sans frontières, qui du coup sont là, ils nous proposent une animation sur l'agriculture biologique.
Et du coup est présent aussi avec nous l'établi qui propose des jeux et une zone de gratuité. Il y a aussi une animation sur la monnaie proposée par des étudiants d'IUT Carrière Sociale qui a débuté à 14h et qui dure environ une heure. Et une deuxième session de cette animation sera proposée à 16h. Il va bientôt commencer un temps de marionnette forum. L'idée du marionnette forum, c'est un peu comme le théâtre forum, mais avec des marionnettes. Et le théâtre forum, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de jouer une pièce de théâtre et que le public puisse intervenir pour modifier le cours des événements. À la suite de cela, sur la même scène, il y aura Walter Sandalet qui nous fera un petit spectacle de ventriloquie et qui chantera des chansons.
Super, merci beaucoup. Et ben on va essayer de regarder ça pendant toute la journée avec vous, tout l'après-midi, et voilà. On va suivre ça de près.
Nous avons le droit aussi également une super musique d'ambiance qui n'a pas été prévue dans le programme, mais c'est très bien, ça va ponctuer notre émission.
L'émission radio.
Alors, je suis avec Léa et Eulalie, qui font partie d'une organisation de zone de gratuité, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Donc, en fait, on est un collectif d'étudiantes de l'IEP de Rennes et on travaille en ce moment avec le CRIJ, donc Centre Régional Initiative Jeunesse, pour monter une zone de gratuité sur Rennes. Dans ce cadre-là, en fait, on a commencé cette zone de gratuité au CRIJ. C'est donc Place Charles de Gaulle à Rennes. Et on a commencé ça mercredi dernier et la prochaine est mercredi prochain. Et dans ce cadre-là aussi, c'est pour ça qu'on est là cet après-midi dans le cadre de la semaine de l'environnement.
D'accord. Et du coup, ça consiste en quoi une zone de gratuité ?
Alors une zone de gratuité, Léa, c'est...
C'est donc un espace où on peut prendre, donner sans échange d'argent, sans troc. Donc c'est vraiment basé sur le concept de gratuité, ce qui fait que des fois les gens sont un peu surpris de découvrir... sont un peu gênés même de prendre des choses sans avoir à donner quelque chose en échange, mais c'est vraiment le principe du don.
D'accord, si j'ai envie de prendre un truc, je le prends, et si j'ai envie de mettre un truc, je le mets, c'est ça ?
Voilà, c'est sans argent et c'est pas nécessairement un troc. Il y en a qui font que récupérer des choses, il y en a qui font que donner, et c'est ça le principe. Et puis c'est aussi l'idée que voilà, des retraités peuvent venir. On en a eu mercredi dernier.
Des
c'est aussi
des
jeunes. Enfin, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ou personnes qui n'ont pas de ressources, ou personnes qui ont trop de choses chez eux. Et voilà, c'est ouvert au maximum de personnes. Et l'idée, c'est de faire connaître au plus grand nombre.
D'accord. Mais alors du coup, ça fonctionne comment pour que ça marche, en fait, pour que ça continue
Bah pour que ça continue, c'est qu'il faut que des personnes amènent des choses, en fait, pour que le stock ne fasse pas que se vider, qu'on ait aussi des choses à récupérer pour ensuite proposer d'autres nouvelles choses à d'autres. Par exemple, on a eu beaucoup de vaisselle à partir aujourd'hui, bah, peut-être que mercredi prochain, on va en avoir à arriver. C'est l'idée, en fait, que ça fasse un cycle, que ça s'arrête pas.
Et ça marche bien ?
Et pour l'instant, ça marche bien, c'est vraiment le tout début, mais y a déjà un magasin gratuit, par exemple, sur Rennes, qui marche très bien, et dans d'autres villes de France, ça marche aussi, donc, et même à l'étranger. Donc, voilà.
Salut à vous, ça m'inspire une question, du coup. Salut, moi, c'est Raphaël. Je voulais savoir si vous étiez justement en lien, en fait, avec les autres espaces de gratuité à Rennes, les autres initiatives un peu dans ce genre-là.
Alors, on avait rencontré le magasin gratuit rue Le Graveran à Rennes et ils nous avaient dit qu'ils étaient très contents que l'initiative se développe encore plus dans Rennes et que ça leur plaisait bien que le concept de gratuité se répande un petit peu partout.
Donc voilà, sinon, moi j'ai connu le concept en fait au Canada et c'est dans ce cadre-là qu'il y avait une zone de gratuité juste en face de l'université à Ottawa, donc dans la partie anglophone du Canada. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de ramener le concept sur Rennes. En fait, on ne connaissait pas au départ le magasin gratuit et donc maintenant on le connaît et on est content de... que ça se fasse déjà et on veut aussi étendre peut-être à un public aussi un autre public et étendre au maximum et développer l'initiative.
Parce que moi il me semblait qu'il y a 2-3 ans il y avait une initiative d'essayer de cartographier sur Rennes les différents espaces de gratuité, parce qu'il y en a certains dans des bars, en fait ils sont un peu cachés, il y en a plusieurs en fait dans la ville, mais peu de gens en fait on connaissent en fait leur existence, et du coup il y avait une volonté d'essayer de cartographier ça, donc voilà, je sais pas,
on n'a pas entendu parler de ça, mais
voilà,
j'ai
en fait il y a un projet de cartographier les espaces de gratuité sur la ville, mais
t'as ouais. Peut-être un contact ou non tu...
Si j'ai un contact à donner, je sais que
tu leur donneras ça après en
tout
prof.
À fait. C'est pratique.
Et du coup, vous êtes qui du coup exactement? Enfin, est-ce que vous êtes un collectif ou une association ou comment ça s'est organisé concrètement?
Donc, on pensait au départ créer une association et on s'est rendu compte que c'était pas vraiment nécessaire, du moins pas pour le moment, puisqu'on n'a pas demandé de financement. Vraiment, tout est gratuit pour l'instant. On travaille en partenariat avec le CRIJ, donc c'est vrai que le CRIJ nous aide par exemple. Pour les côtés communication, au niveau des flyers, c'est eux qui impriment, c'est des choses tout bêtes, mais des dépenses qu'on n'a pas à faire. Donc pour l'instant, on n'est qu'un collectif qui s'appelle La Gratuité. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre sur Facebook sur la page La Gratuité. Et donc on est pour l'instant 3 étudiantes de l'IEP et on aimerait bien même avoir des bénévoles éventuellement intéressés. Et voilà, donc un collectif en partenariat avec le CRIJ.
Ok, et comment on peut vous contacter du coup si on a envie de vous aider?
Le mieux, c'est sur notre page La Gratuité sur Facebook. Donc c'est une communauté, voilà, il suffit de taper La Gratuité Rennes et vous le trouverez.
La Gratuité Rennes,
ouais.
Ok, c'est super. Ça. Et là, du coup, vous êtes avec nous jusqu'à ce soir sur la dalle Kennedy.
Oui, donc le stand de gratuité va rester jusqu'à ce soir.
Ok, super. Bah, merci beaucoup. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Venez nombreux mercredi prochain.
Super, merci.
Merci à vous.
Bonjour. Je voulais savoir ce que vous faisiez ici sur la dalle.
Bah, je suis venue avec les enfants pour qu'ils s'amusent.
Tu veux dire bonjour?
Patate.
Comment vous habitez ici?
Non, pas du tout. Enfin, j'habite sur Rennes, cimetière de l'Est.
Et vous êtes venue donc pour l'événement de la semaine de l'environnement?
Ouais, c'est ça, complètement. Ouais.
Il y a des événements qui, en particulier, qui vous attiraient dans la programmation?
Non, je connaissais la semaine de l'environnement via les autres événements qui sont faits les années précédentes au Gaïol. Et du coup, comme j'avais rencontré des loulous de la semaine de l'environnement au marché, je me suis dit, j'ai pas regardé la programmation, je suis venue. Voilà.
Et vous vous amusez bien? Vous apprenez des choses?
Oui, ça va, c'est chouette. Et les enfants, ils se régalent, donc c'est top, ouais.
Et vous connaissiez ce lieu-là avant, la dalle Kennedy?
J'y étais passée une fois, mais pas trop.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ce lieu?
Rien de spécial, c'est un lieu urbain comme un autre. C'est pas mon quartier, donc j'y passe pas.
Et comment vous pensez qu'on s'approprie ce genre de lieu?
L'investissement de chacun. Tout simplement, des actions comme celle-là, c'est bien, ça met un peu de vie, ça rapproche les gens. L'associatif, à fond.
À travers quoi se crée le lien entre les gens, justement?
L'associatif et l'échange, justement. Et c'est des valeurs simples, de partage aussi, où l'argent n'a pas forcément omniprésence. Ça permet de rapprocher les gens et de les mettre à égalité.
Merci.
Eh ben, bonjour. Alors, bonjour. Moi, je vous connais sous le nom de Walter Sandalette.
Oui.
Alors, est-ce que c'est bien votre nom?
Tout à fait, oui. Walter Sandalette. Voilà, parce qu'en fait, je suis passionné par la mer, les plages, et j'aime bien me balader comme ça.
D'accord, en sandalette, du coup.
Bah oui.
Ok. Bon, donc expliquez-moi un peu votre travail, en fait, ce que vous faites. Donc vous, j'ai bien compris, donc vous faites des chansons et vous êtes ventriloque.
Oui, donc on fabrique des marionnettes animalières, donc en fourrure, et pour faire des spectacles pour enfants, jeunes publics. Voilà, ça s'appelle la compagnie Optimus.
Optimus, d'accord.
Elle est basée dans les Côtes d'Armor. Et donc, on privilégie les spectacles sur l'environnement. Mais depuis assez longtemps, depuis une vingtaine d'années à peu près, les chansons sont plus écologiques. Voilà. Donc, on nous a sollicité pour pas mal de... Enfin, pas mal, non. Pour quelques structures et fabrications spécifiques. Par exemple, un ours blanc.
D'accord. Voilà.
Donc ça c'était en 2003, donc c'est pour un grand centre sur Brest, voilà.
Donc vous faites à la fois la conception de marionnettes grande taille.
Oui.
Et donc il y a tout le travail de chansons, d'écriture et,
d'écriture, voilà. De sketch et d'histoire, c'est contemporain. Donc à l'origine ça s'appelle Création Optimus parce que c'est 100% création, il n'y a pas de reprise. Voilà, donc c'est un tout et il faut amuser autant les enfants que les grands-enfants. Donc on a des chansons un peu plus relevées qui sont plus compréhensibles pour les grandes personnes, mais ça passe.
D'accord, j'imagine qu'il y a un double langage aussi sur certaines choses.
Oula. ouais, on essaye, justement pour que ça puisse satisfaire plus de monde, les amoureux de la langue française, pas de la chanson à texte. Je vais formuler plus au lieu de chanson à texte parce que c'est bon, c'est un peu gonflant. Chanson pas simple, chanter simplement.
D'accord. Voilà. Le sens de la formule.
C'est plus accessible, ouais.
Ça marche. Et du coup, alors, comment ça s'est, enfin, comment vous avez été contacté par la semaine de l'environnement? Ça s'est un peu passé comment? Vous avez déjà entendu parler de cet événement-là ou
Je dois le dire. sensibilisé par l'environnement depuis. Alors, je compte plus. Hein, ça doit être depuis vos âges là. Ça me réjouit parce que la relève est bien prise. C'est très actif. Hein. Moi, je sais que j'ai commencé à 16 ans les principes écologiques et les pratiques écologiques. Donc, j'approche 60 ans.
Ça arrive des gens très bien.
Voilà, le végétarisme aussi. Bon, ça, c'est personnel. Mais oui, beaucoup d'implications de ce côté-là. Beaucoup de cris de rage également, parce qu'on peut rien faire. Ça, c'est moche, mais on peut rien faire isolé. Ça, je l'ai compris assez tard. Donc là, la relève est bien prise par les jeunes et donc c'est bien. Donc contacté, c'était une personne qui travaille en bénévole sur Radio Campus qui m'a proposé, qui est de la famille disons, et qui m'a dit tiens ça pourrait t'intéresser, enfin m'intéresser, ça pourrait te convenir. Et puis voilà, comme je suis en train de me ressourcer dans le répertoire que j'avais créé il y a quelques années, j'ai eu un petit break, donc je me dis pourquoi pas, allez, l'occasion c'est bien, toute occasion est bonne, surtout pour celle-là.
D'accord. Eh ben, merci en tout cas d'avoir présenté un peu votre travail.
De rien.
Et puis, bon courage. Là, vous jouez tout à l'heure encore ?
Oui. Je vais tourner quelques chansons et un sketch avec en ventriloquie avec une marionnette sur le thème de l'environnement également.
Ça marche. Voilà. Merci.
Attendez. À bientôt. Bon courage.
Je vous propose d'écouter une de tes chansons. Voilà, on a les matelots pneumatiques. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler de trois mots?
Les matelots pneumatiques, c'est une chanson pour enfants à décompter, voilà, pour de très jeunes enfants. Est-ce que vous n'avez pas l'autre chanson qui a été sélectionnée Touche pas ma mère ou le petit message?
Oui, ok, c'est celle-là. Ouais.
Donc celle-ci a été sélectionnée pour un concours de chansons écologiques. Il y avait une sélection de 10 titres, 10 groupes différents. Et donc on a eu le plaisir et la chance de pouvoir faire partie de cette sélection. Voilà. Donc okay. Touche pas ma mère, le petit message, c'est une allusion, une métaphore sur les messages jetés dans des bouteilles à la mer. Non pas des bouteilles plastiques, mais des bouteilles en verre recyclables. Et donc là-dedans, il y a un message.
Ok, super.
Voilà.
Et on l'écoute.
Merci.
Petit message en flacon de verre.
Alors, je suis avec Antoine qui est sur la place, sur la dalle, et qui font des drôles de jus avec une drôle de machine. Et du coup, on s'est demandé ce que c'était. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ?
Donc, j'ai ouvert récemment un stand à jus qui s'appelle Au présent longtemps. Aujourd'hui, je l'ouvre sur la dalle Kennedy pour la semaine de l'environnement avec mon ami Victor. Nous avons voyagé ensemble et rencontré Paul, une personne de la semaine de l'environnement sur le marché à qui j'ai proposé d'ouvrir un stand à jus aujourd'hui même. Donc je suis au rendez-vous pour proposer aux passants des jus frais de fruits et légumes vivants à souhait.
Ok, donc on arrive et hop, on peut prendre un jus de fruits et légumes comme ça.
Oui, avec la patience bien sûr, parce que c'est un extracteur manuel, donc une machine spéciale pour séparer les fibres du jus. Et nous avons un appareil, donc il faut le temps de couper les légumes, de tourner la manivelle et aussi de discuter, de rigoler, passer un bon moment ensemble. Le tout pour un prix libre.
Et du coup, ça t'est devenu d'où cette envie ? Enfin, pourquoi ?
Ça a commencé par le végétarisme. J'ai rencontré l'atmosphère végétarienne qui m'a beaucoup plu de par sa dimension bien-être et la compréhension ou du moins l'appréhension du corps-esprit. C'est-à-dire qu'en nourrissant mon corps et mon esprit sainement, j'ai accès à une joie de vivre facilitée.
Ça t'a ressenti ça toi en...
Absolument.
Ok.
Et donc ça a commencé par le végétarisme, ensuite le crudivorisme. Je me suis, j'aime beaucoup cuisiner des salades de crudité, manger des algues, manger des fruits secs et des fruits et légumes en tout genre, le tout cru. Et j'ai un extracteur de jus. Les jus frais ont rencontré mon chemin cette année.
D'accord.
Et ça me réjouit grandement. Et je sens pour mon corps que c'est une chose très importante.
Ok. Et du coup, là, ça se passe comment, en fait, pour extraire le jus ?
Alors, est-ce que tu peux préciser ta question ?
Je sais pas, genre... Enfin, c'est une machine. Hop, on met un légume, on met un fruit et hop, on obtient un jus en tournant quelque chose.
Oui, voilà. Alors quand une personne veut un jus, je propose différentes couleurs possibles selon les fruits et les légumes. Car la vie est également dans la couleur du fruit et du légume. Donc une personne va me dire par exemple orange, je vais choisir des carottes. et que je découpe en, comme en forme de frites, que j'agrémente de différents épices et fruits pour avoir différentes saveurs également. Donc je dépose les frites de carottes dans le conduit en, tout en tournant la manivelle, ce qui va dans un filtre et qui s'est poussé par une vis, donc une vis sans fin. D'accord. Et la vis pousse la matière dans le fond du tube, et donc qui est couplé avec un filtre. Et là voilà, le jus se sépare, okay, de la matière, super, comme cela.
Et donc là, c'est la première fois que tu fais ça aujourd'hui, c'est ça, si j'ai compris.
C'est la troisième public, fois. Donc sur un espace public.
Oui. Ok. Et on pourra te retrouver d'autre part à un autre moment ou
Oui, mais je ne sais à quel moment et où, car mon principe de vie, c'est l'improvisation.
Super. Merci beaucoup, Antoine.
Merci. Au revoir.
Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Bonjour. Alors, on va faire une petite interview décalée. C'est ce que je vous propose pendant cette semaine de l'environnement. Alors, d'abord, vos prénoms.
Je m'appelle Adrien.
Je m'appelle Nine.
Et moi, Arthur.
Alba.
Florine.
Et JB.
Environnement ou écologie?
Moi, je dirais plus environnement qu'écologie. Écologie, je trouve que les politiques se sont emparés de ce terme écologie et que ça a un peu perdu, je sais pas, de son sens premier un petit peu. Donc, je dirais plus environnement, beaucoup plus.
Moi je dirais environnement et écologie, les deux sont liés. Après c'est vrai que le mot écologie va peut-être plus être instrumentalisé par les politiques. Mais pour autant, l'environnement et l'écologie sont deux choses qui peuvent être travaillées ensemble, quoi.
J'hésite entre les deux. Parce qu'environnement, c'est au sens large. Et environnement, plutôt. Ah. Je change d'avis, pardon.
Alors, pourquoi tu changes d'avis, justement?
Parce qu'écologie, il y a un côté... Je pense qu'il y a un côté politique, un côté engagé. Et environnement... On a l'impression, en tout cas, que le mot est plus léger. Il est moins lourd. Alors que ça veut peut-être dire la même chose. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut derrière ces deux mots. Mais voilà, je préfère le mot environnement parce qu'il est plus léger. Voilà.
Moi, je dirais environnement, parce que c'est moins politique qu'écologie, je pense. Du coup, je vais dire environnement.
Oui, voilà, c'est sur... des valeurs de prix libre, de parler de choses qui sont un peu accessibles. Donc ouais, plus dans l'environnement, écologie, pour moi, ça sonne un peu plus politique, effectivement. Je rejoins mon collègue là-dessus.
C'est quoi votre urgence?
Qui est une prise de conscience générale sur comment fonctionnent plein de choses autour de nous, que ce soit l'économie... que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit qu'on essaye un peu de vulgariser des grands termes et qu'on l'explique au grand public, en fait, que les gens comprennent un peu comment fonctionne le monde dans lequel on vit, je pense.
Moi, je dirais, avant de changer le monde, il faudrait changer l'être humain. Parce que changer le monde sans l'être humain, c'est pas possible. Et du coup, revenir à des choses qui sont plus... Les bases de notre humanité et se reposer des questions et ouais, du coup essayer de générer une prise de conscience et partir d'abord de l'être humain avant de changer le monde.
Ouais, je suis assez d'accord, moi aussi je pense qu'il faut vraiment sensibiliser l'humain pour éviter de passer par des multinationales ou des banques ou des systèmes qui en fait font que notre système général fonctionne pas forcément dans notre sens en fait.
Mon urgence, là, globalement, c'est d'aller en cours, mais je n'irai pas. Non, je sais pas, vas-y, t'essaies.
Moi, mon urgence, c'est de faire prendre conscience aux gens que tout ce qui est question de prix libre, de mettre des animations en place sur des questions de société, c'est intéressant. Et je pense que c'est urgent de mettre en place ces alternatives-là qui, on voit, fonctionnent bien aujourd'hui et qui sont efficaces, quoi.
Ouais. Tirer la sonnette d'alarme, là, parce que ça commence un peu à devenir compliqué.
et de montrer que c'est tout à fait possible, s'il vous plaît, de passer à autre chose que de faire une buvette. Mais c'est bête, hein, de parler que du prix libre, mais en même temps, c'est...
C'est ça aussi, l'écologie dans l'environnement, c'est les choses concrètes de tous les jours qui vont permettre finalement de changer notre mode de vie, notre mode de consommation et tout ce qui va polluer et impacter sur l'environnement, quoi. Enfin, c'est un peu bateau ce que je dis, mais en même temps, c'est ça aussi.
Mon urgence aujourd'hui, l'urgence que je vois dans le monde, ça serait vraiment de... je vais sortir une grande phrase, mais de revoir un peu les rapports de pouvoir, notamment du coup au niveau de l'environnement. Aujourd'hui, on sait que c'est les multinationales qui ont le dernier mot. On l'a bien vu à la COP21, ça n'a pas trop fonctionné. Donc voilà, ce serait vraiment de redonner du pouvoir aux politiques et puis avant tout au peuple aussi. Voilà, qu'il puisse s'exprimer et puis donner son avis. Je ne sais pas si mon avis est pertinent, mais voilà. Je pense que voilà, il y a un vrai problème aujourd'hui concernant les multinationales et voilà.
Google fait-il votre bonheur ?
Google fait mon bonheur. Écoute, moi je ne vais pas sur Google, je suis sur Mozilla. Parce que je pense que Google, ça me fait un petit peu peur. J'ai l'impression qu'il collecte tout ce que je mets, tout ce que je fais. Et donc non, Google ne fait pas particulièrement mon bonheur.
Moi non plus, bah du coup je suis un peu dépendant de ce genre de moteur de recherche comme tout le monde. Moi ce qui me gêne, c'est que ils ont un peu le monopole en fait sur Internet et ils proposent des espèces de contrats ou même ils vous laissent pas vraiment le choix en fait pour la collecte d'informations et donc je trouve c'est un peu dangereux, mais en même temps c'est un peu tout ce que ça représente un peu tout notre modèle d'Internet avec Facebook et tout, donc...
Voilà. Putain, la question de ouf !
Alors, pas du tout. Google, c'est un sacré... C'est énorme, parce que Google, on en entend parler partout, mais on le voit nulle part. On voit pas tellement de pubs Google, on a l'impression que c'est un peu une entité invisible qui est présente partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google, par exemple, investit dans l'éducation, investi dans la robotique, investi dans la santé. Ils ont créé leur voiture Google, ils ont créé leur village Google. C'est un peu une entité, un peu invisible, qui domine un peu tout. Et je suis pas tellement d'accord avec la manière dont ils fonctionnent.
Moi, je pense que c'est assez dangereux aussi, Google, dans le sens où ils récupèrent énormément de données et derrière, il y a une manipulation qui est faite. Hein. Donc, une recherche, elle va être mémorisée et derrière, on va pouvoir influencer les pubs qu'on va recevoir ou augmenter les prix. Si, par exemple, on cherche un billet d'avion, il peut tout de suite doubler de prix. Et je pense qu'il y a d'autres moteurs de recherche qui sont à mettre en valeur, comme Ecosia par exemple, qui du coup informatisent pas toutes nos données et on sait vraiment pas comment est-ce qu'elles peuvent être utilisées derrière ces données. Enfin, je me suis posé souvent la question de à quel point est-ce que Google, connaissait notre vie, quoi. Et, je me souviens, l'autre jour, je prenais l'avion et je reçois un message directement sur mon portable qui me disait « Attention, t'as 1h30, il faut vraiment que tu arrives parce que t'es encore à 1h45 de l'aéroport. » Mais il sait où est-ce que je suis, il sait que je pars, il sait quand est-ce que je pars. Enfin, c'est assez flippant parfois.
J'ai jamais vraiment réfléchi à cette question. Je dirais que oui, mais parce que j'ai jamais vu autre chose. disons que je pense que Google, c'est un espèce de filtre. J'ai jamais trop recherché sur d'autres moteurs de recherche, mais je pense que du coup, d'après ce que je sais de Google, c'est les choses les plus recherchées qui sont en tête de liste, et du coup, ça fait un espèce de... Comment m'exprimer ? Justement, en fait, ce qui est le plus accessible, c'est ce qui est le plus communément admis, et du coup... quelque part, on va rechercher l'opinion la plus répandue à travers Google. Ou... Voilà, donc je trouve que c'est un peu aussi à l'image de notre société où il faut creuser quelque part pour aller voir des avis divergents et voilà.
Votre pire souvenir, ton pire souvenir de cantine ?
Les choux de Bruxelles. j'aime vraiment pas ça. Voilà.
des plats de pâtes où quand on retournait l'assiette, les pâtes restaient collées à l'assiette. Ça, c'est un souvenir d'enfance.
Moi, c'est les lentilles. C'était horrible. J'ai rien à rajouter. Ça m'a dégoûté.
Bah moi, en tant qu'animatrice où j'ai travaillé du coup en cantine, c'était de voir les préparations qu'il y avait derrière les plats et le gaspillage qu'il y avait après, quoi.
Mon pire souvenir de cantine, c'est quand on m'a forcé à manger des concombres alors que je n'aimais pas ça. Et je trouve qu'on devrait toujours laisser le choix aux enfants de manger ou pas. Tant qu'ils goûtent, c'est le principal.
Si vous pouviez améliorer le vélo, la plus belle invention de l'homme, que feriez-vous ?
Si je devais améliorer le vélo, je pense que j'enlèverais les pédales et je mettrais quelqu'un qui court derrière moi pour pousser le vélo.
Moi, là, j'ai aucune imagination, alors je vois pas ce qu'on pourrait rajouter sur le vélo. Enfin,
c'est... Si, je pense que je lui mettrais des grandes ailes comme sur les deltaplanes ou quoi pour dévaler des pentes et m'envoler et puis me casser la gueule après.
Ou alors si, rajouter quelque chose qui permette de faire, je sais pas, une espèce d'énergie en plus, comme ça, faire un truc deux en un peu, genre, je sais pas, genre pédaler pour faire...
De l'eau. Ouais, un truc peu... Genre tu pédales, tu fais du jus de pomme.
Ouais, voilà, c'est ça. Comme
ça écraserait les pommes et ça ferait du jus.
T'arrives à la fac, tu bois ton petit jus de pomme après avoir pédalé, c'est pas mal.
C'est pas mal. Le vélo... Eh ben, je le rendrai. Enfin, je permettrai qu'on puisse l'utiliser à d'autres. Enfin, qu'on puisse du coup. Enfin, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un vélo là-bas avec lequel on pouvait fabriquer de l'énergie et du coup le rendre plus accessible, même chez nous ou dans les espaces publics, pour justement montrer aux gens qu'on peut faire autrement, quoi. Qu'il y a d'autres énergies possibles et grâce au vélo, qui est un objet tout bête qu'on utilise quand on a 3 ans, on apprend à en faire et après on l'oublie. Alors qu'il y a plein de choses possibles avec.
Des idées par là ?
Il y a plusieurs exemples de villes un peu qui se disent environnementales, qui développent des voies en fait de vélo au lieu de développer des ronds-points et des routes. Et en fait, on se rend compte que plus il y a de pistes cyclables, plus il y a de vélos en fait et de gens qui utilisent le vélo. Donc si on pousse un petit peu les gens dans ce sens-là et on fait des campagnes de sensibilisation par rapport à ça, les gens d'eux-mêmes en fait se mettent à utiliser le vélo parce qu'ils se rendent compte que ça permet de faire du sport, de ne pas dépenser un rond dans les assurances et l'essence. Et il faut savoir aussi que utiliser le vélo, c'est une des manières avec le fait de marcher d'être le moins victime de la population. Dans les voitures, c'est là en fait on est le plus... on est le plus touché par la pollution. Et le vélo et la marche, c'est les deux moyens justement pour un petit peu se déplacer à l'air libre.
Moi aussi, je pense que c'est important de développer les vélos dans l'espace public, dans le sens où, comme tu disais, de développer les pistes cyclables, mais aussi peut-être... J'avais vu à Bordeaux, par exemple, ils avaient une sorte de borne où, en pédalant, en fait, il y avait une prise en face avec une table où tu pouvais poser ton ordinateur. Tu pédalais et en même temps, ton ordinateur se rechargeait. Ou l'autre jour, Place Hoche, un vélo, où pareil, quand tu pédalais, derrière, tu avais un mixeur et tu faisais ton propre jus. Ou tout à l'heure, on me disait un vélo où, pareil, quand tu pédalais, ça, c'était ta machine à laver qui prenait du sens, en fait.
Bonne question. Alors, je pratique pas le vélo, je suis en fauteuil roulant. Du coup, moi, pour améliorer le vélo, je mettrai un sidecar à côté des vélos et puis je m'accrocherai au vélo et puis je partirai avec les gens à vélo. Ce serait cool.
Quelle serait votre dernière action ? Enfin, qu'est-ce que vous feriez 2 degrés avant la fin du monde ?
2 degrés avant la fin du monde ?
Je comprends pas bien la question.
En gros, c'est la fin, quoi.
Ma dernière action ? Je sais pas, ça peut être tout. Je fumerai une dernière clope et je resterai avec mon copain pour profiter de ces derniers instants.
Moi, j'irai à la plage avec mes copains et mes copines.
Je pense que j'y croirai toujours, quelque part. Et j'essaierai de résoudre le problème à ma petite échelle. Parce que je pense qu'il ne faut jamais baisser les bras. Voilà, tout simplement.
Le plus beau voyage romantico-décalé que tu aimerais faire ou que tu as déjà fait?
Je suis parti deux fois au Québec. C'est vraiment un endroit qui m'a vraiment plu parce que c'est là où je me suis rendu compte. Parce que c'était aussi la première fois que je voyageais, mais que, en fait, le rapport entre les gens, c'était aussi une question de société et une question de valeurs et de normes. Et que quand tu vas au Québec, bah, tu as l'impression que les gens sont plus ouverts et que les relations entre les gens se font plus facilement. Et du coup, ça pose pas mal de questions sur... voilà, on a l'impression que c'est acquis d'avance, que la relation entre les gens, elle est comme ça et qu'on ne peut pas changer. Mais quelque part, quand tu prends un peu de recul et quand tu vas voir dans d'autres pays, que tu te dis que peut-être c'est une question de société, là, ça devient intéressant.
Moi, j'aimerais bien partir en Mongolie. Ouais. Juste avec des chevaux, c'est tout.
Moi, j'aimerais bien faire de la plongée sous-marine dans des Antarctiques, parmi les icebergs. Hein. Je pense que ça doit être assez ouf à voir.
Moi, vivre sur un bateau et être coupé de tout ce qui se passe sur le monde et rester sur mon petit bateau à voyager. Voilà.
Romantico-décalé, je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup de notions de romantisme, mais je sais pas, un petit voyage en sac à dos et je sais pas.
Ouais, je pense aussi quelque chose en Amérique du Sud, un truc un peu décalé aussi avec un sac à dos, une tente et l'amour et l'eau fraîche suffiront.
Doit-on dire merci à son patron ?
Ah bah, c'est référence au documentaire qui est sorti. Oui et non.
Ça dépend du patron.
Tout dépend du patron, ouais.
Je sais pas du tout, j'ai pas d'avis sur cette question.
Doit-on dire merci à son patron, je ne sais pas si c'est dans l'associatif et qu'il t'a pris et que tu fais du bon boulot et que c'est d'égal à égal, oui, tu le remercies. Sinon, si c'est à l'usine et qu'il t'aboie dessus et que non, je pense pas que je lui dirais merci.
Ouais, je rejoins Nine sur ce propos-là. Ça dépend en fait du patron. Je pense qu'il faut pas non plus cracher sur tous les patrons. Y a des bons patrons qui ont des bonnes valeurs, mais...
Puis le mot patron, c'est un peu péjoratif. Tu peux avoir des supérieurs, mais qui restent aussi dans une relation de confiance et de partage. Et après, patron, c'est vrai que ça fait un peu grandes entreprises, mais comme je n'ai aucune ambition à travailler là-dedans, même si je l'imaginais, non, je ne lui dirais pas merci.
En fait, s'il y a du dialogue, je pense que... des compromis, du dialogue, je pense que ça suffit. Après, oui, bien sûr, si on se réfère à tout ce qui se passe en ce moment avec la loi travail, etc., voilà, c'est vrai que faut faire la part des choses, je pense.
Avez-vous la folie des glandeurs? C'est le nom d'un groupe de musique qui va passer demain au Gaïeul. Ce soir, je sais plus.
Bah, j'irai voir, alors à ce moment-là.
Bah, moi, je sais que j'ai pas la folie des grandeurs, mais je pense avoir la folie des glandeurs un jour sur deux. Je suis fan de la procrastination. Donc je pense que oui, j'ai une petite part de folie glandouillage.
Oui, j'aime bien prendre mon temps, si c'est dans ce sens-là qu'on l'entend. Voilà, parce que je pense qu'il faut, dans la vie, il faut prendre son temps et puis laisser les choses arriver. Et puis voilà, je pense que les gens qui sont trop pressés, des fois, peut-être qu'ils ratent des opportunités, parce que c'est vraiment en prenant le temps qu'on peut regarder autour de soi, qu'on peut vraiment réfléchir et penser et s'ouvrir de nouvelles opportunités. Voilà.
Non. Non, pas le temps. Pas le temps de glander, il y a trop de choses à faire.
Je l'ai eu très longtemps, mais puis maintenant.
Bah, j'aimerais ne pas l'avoir. Mais de temps en temps, je me sens envahie par cette chose-là. Je sais pas d'où elle vient, mais je la veux pas.
À quel prix? C'est ma dernière question.
À quel prix? À prix conscient? En fait, ouais, voilà. Simplement demander aux gens de prendre conscience de la valeur des choses et leur donner le libre choix de payer ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, et ouais, quand ils veulent.
Bah, au prix du temps, parce que le temps aujourd'hui, on a l'impression que... En tout cas, la société nous fait croire qu'on n'en a pas beaucoup et qu'il faut l'utiliser au maximum. Voilà. Donc voilà, mais pour moi c'est pas tellement un prix, j'aime bien prendre mon temps, donc voilà.
Le prix de la simplicité, rien de faux, du concret et de l'honnêteté.
Ouais. Bon bah on va dire le prix de la sobriété alors.
À quel prix ?
Moi, j'ai payé 50 centimes mon jus de pomme.
Moi, j'ai payé 1,50€ ma crêpe à la compote de pomme qui était vraiment délicieuse. Et j'ai fait ma vaisselle et j'étais très content.
Le jus de pomme était très bon aussi.
Oui, c'était bon. Et à quel prix ? Bah, pas à n'importe quel prix. Hein.
Voilà. Merci beaucoup.
Est-ce que je peux avoir une crêpe beurre compote, s'il vous plaît ?
Oui, vous pouvez avoir votre crêpe beurre compote.
C'est génial.
Elles sont trop bonnes, les crêpes, en tout cas.
C'est vrai que ça a l'air bon, hein, franchement. Et tout ça à prix libre.
Indigestion de crêpes.
Ah oui, ça, c'est le problème, indigestion de crêpes, quand c'est prix libre.
C'est quoi, le prix libre ?
Trop de crêpes, tu la crêpes. Alors, qu'est-ce que le prix libre, Thomas ?
C'est une bonne question. Le prix libre, c'est une volonté culturelle où les gens peuvent donner ce qu'ils veulent en fonction du service proposé et de leurs moyens, de ce que ça vaut, de donner leur impression sur ce que ça vaut. Et comme ça, il y a un équilibre entre le vendeur et le client qui trouve un petit peu son compte. En fonction de du client qui, enfin de la personne qui achète quoi, qui ne se sent pas lésée parce qu'elle achète parce que par exemple il y a pas assez de piment ou il y a trop d'huile et le vendeur parce que le client en fait il repart content et il a l'impression de faire des choses justes.
Et est-ce qu'il peut revenir dans ses comptes quoi? Parce que peut-être c'est aussi ça qu'il veut, le vendeur.
En général, il y a toujours des gens qui donnent un petit peu plus que d'autres, parce qu'ils ont le sentiment que... Enfin, parce qu'ils ont un petit peu plus de... une bourse un peu plus importante, et que finalement, ils ont aussi un petit peu l'impression de... Bah, que ce soit de la qualité. Et d'autres, finalement, il y a toujours des personnes qui payent pas, mais ça reste un petit peu au final on trouve ses comptes quoi.
Okay. Super. Eh ben je vais prendre une crêpe prix libre alors.
Oui, alors je suis avec Hélène de Agronome et Vétérinaires sans frontières. Donc vous avez un stand sur la dalle Kennedy pour la semaine de l'environnement. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ?
Donc nous aujourd'hui on propose des animations pour les enfants pour leur faire comprendre qu'on peut avoir de l'impact sur les pays qui sont appelés en voie de développement. Pour leur faire comprendre aussi que le thème aujourd'hui c'est un peu les légumes et les fruits de saison. Donc tout ne se consomme pas toute l'année. Que manger des tomates en hiver, c'est pas super. Et aussi, on fait un atelier sur l'environnement, sur les déchets, sur les dépenses d'énergie, sur la consommation aussi. Donc voilà, l'idée, c'est de proposer 4 ateliers pour les enfants.
D'accord. Et est-ce que donc, votre association, c'est une association de développement qui travaille plutôt dans les pays du Sud, mais est-ce que vous travaillez en général, souvent quand même au niveau local ? À de la sensibilisation.
Oui, alors chaque ville a une antenne, les villes principales, on va dire Toulouse, Lyon, Aix-en-Provence, Paris, Rennes aussi, Nantes, ont des antennes d'AVSF. Donc moi je suis correspondante, c'est-à-dire que je suis bénévole, mais j'ai assez d'autonomie, je peux organiser des événements et donc on cible le grand public et essentiellement les étudiants et les enfants. Donc pour les enfants, on participe à des événements comme ça, on fait aussi des interventions en école primaire. On fait pour les adultes des cafés-débats tous les premiers mardis du mois. Ça s'appelle les Mardis sans frontières. Et on participe à d'autres événements, la quinzaine du commerce équitable. Là, on a fait un événement lundi pendant la semaine de l'environnement à Rennes. Et on fait aussi des courses, en fait. C'est-à-dire qu'on participe à des courses qui sont organisées dans des villes, comme Touraine-Cours. Et on a des coureurs qui courent avec les couleurs d'AVSF et qui montent une plateforme de dons. C'est la seule activité bénévole en fait, qui ramène de l'argent, des dons à AVSF pour financer les actions dans les pays du Sud.
D'accord. Et est-ce que vous avez l'impression, là, que, par exemple, aujourd'hui, sur la dalle, que les gens sont réceptifs à ce que vous proposez ?
Alors, ce qui est, en fait, on fonctionne en deux temps pour sensibiliser les gens. C'est en passant par les enfants. Donc là, on peut les toucher directement, leur dire que quand ils vont faire les courses avec leurs parents, ils peuvent leur rappeler que il y a certains légumes qu'on n'achète pas à tel moment de l'année. Il y a certaines les œufs, par exemple. On a fait un atelier autour des œufs. Donc reconnaître les œufs bio. Aussi pour les cantines, ils peuvent avoir un impact, même quand on est enfant on peut avoir un impact, et au-delà de ça on peut toucher les parents quand ils viennent discuter à la fin de l'atelier avec nous. Voilà, on leur parle d'AVSF, on leur explique ce qu'on fait, on les invite à participer à d'autres événements eux-mêmes, pas que avec leurs enfants. Donc je pense que c'est un bon moyen de toucher les gens, et surtout les jeunes, de les toucher dès qu'ils sont petits, en fait, de les sensibiliser à ces questions-là, parce que c'est les consommateurs de demain. Donc puis ça fait plaisir quand il y a des petits bouts de choux qui disent « Ah, quand je serai grand, je vais être comme vous ». C'est trop mignon. On m'a demandé tout à l'heure si c'était possible d'être agronome pour poissons. Donc j'ai dit oui, effectivement, tu peux travailler dans l'agronomie avec les poissons. Mais voilà, je pense qu'il y a un réel impact. C'est sur un long temps. Mais je pense que ça impacte quand même.
Et du coup, juste une dernière question, le lien avec l'agronomie, ouais, d'accord, les vétérinaires, comment vous expliquez un peu
Alors nous, on explique en fait à travers les actions d'AVSF. AVSF fait de la formation vétérinaire, ils interviennent aussi pour faire des campagnes de vaccination, parce qu'effectivement... Au Sahel ou en Mongolie, si un nomade a un troupeau qui est malade, s'il n'y a pas de véto dans le coin et s'il n'est pas formé, il peut pas résoudre le problème. Donc on montre ça aux enfants, que du coup vétérinaire, ça existe aussi dans d'autres pays, qu'on peut être vétérinaire pour des animaux entre guillemets exotiques. Donc là on ne l'a pas fait sur ce stand là, mais sinon on fait aussi un grand album photo avec plein d'animaux, des vaches qui viennent d'Inde, des animaux, des cochons d'Inde aussi, des choses comme ça. Et on montre aux enfants que à travers des soins vétérinaires, on peut aider les paysans en fait à vivre mieux.
D'accord. Et dans le contexte actuel, par rapport à la COP21, etc., est-ce que vous avez une action aussi
Oui, AVSF était présent sur la COP21. Moi, j'étais présente pour des raisons personnelles, mais AVSF avait un stand sur la COP21 où ils étaient aussi avec d'autres associations pour sensibiliser le grand public. Et nous, par rapport à l'actualité, en fait, on va dire par rapport à la crise agricole, à tout ce qui est la suite de la COP21, pendant les Mardis sans frontières, on fait justement des débats autour de ces questions-là. On a fait sur la question des semences, sur la question... lundi dernier, c'était agriculture conventionnelle versus agriculture alternative. Et donc, en fait, c'est montré que dans les deux camps, on peut avoir des choses qui sont bonnes, des choses qui se recoupent, et qu'on peut tendre de plus en plus vers une agriculture plus raisonnée, plus paysanne, qui est bonne pour la santé, pour les paysans et pour les consommateurs.
D'accord. Et pour finir, est-ce que vous avez une adresse où on peut vous retrouver, un site internet, des événements à venir ?
Oui, alors il y a le site internet avsf.org, donc là qui regroupe toute la documentation d'AVSF, il y a des présentations qui sont bien faites. Il y a la page Facebook aussi, et nous on a une page Facebook, les Mardis sans frontières Rennes. Donc là ça donne toutes les actualités de la ville de Rennes, tout ce qu'on fait, et ça donne aussi le programme de tous les mardis à venir. Et le prochain, ça va être sur l'agroécologie en avril, et en mai on a la chance d'avoir un agriculteur d'Haïti qui est producteur de chocolat et qui vient pour nous parler de commerce équitable.
D'accord, c'est quel mardi ? Vous avez déjà la date ?
Alors, en mai, ce sera le 26, c'est un jeudi. Je ne suis pas sûre de la date, mais je sais que c'est le jeudi 26 ou 25 du coup. Et en avril, on n'a pas encore fixé la date, mais ce sera après les vacances scolaires, parce qu'on est étudiantes essentiellement, les bénévoles, parce que je tiens à le préciser, il n'y a que des filles. Et donc on est étudiantes, donc on s'est dit que pendant les vacances, on n'aura pas un public très présent. Donc il faut aller sur la page des Mardis sans frontières et suivre les dates et les actualités.
Parfait, merci beaucoup.
Merci. Qu'est-ce que t'as en? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu dis? Oup didi boudou, c'est mon désir. 100%. Ça c'est bon plan. Tant pis, tant pis.
Toujours la même histoire, c'est la même folie. Un petit litou, des tomates avec de la mayonnaise. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu bois? Toujours la même histoire, c'est la même folie. Un petit laitou, des tomates avec de la mayonnaise. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu bois? Un petit, petit laitou. Des tomates. Poudou-di-boudou-dou. Avec du vec, du vec. Des, la mayonnaise.
Eh bien, bienvenue dans le quiz écolo. Je vois l'enthousiasme, c'est important. Alors, donc, il y aura des petites règles pour le quiz. Pour noter les scores, hein, on se fait confiance mutuellement. Hein, avec de la mauvaise foi, c'est toujours plus important. Donc, le principe, c'est simple. Je vais poser une question. Dès que quelqu'un a la réponse, il va taper sur la table très fort. Et là, je vais dire l'équipe. Vous, vous trouvez un nom, d'ailleurs, c'est important. Vous n'avez pas de nom? Vous n'avez pas de nom d'équipe? Mais c'est n'importe quoi. Les jaunes, d'accord, les jaunes, ok.
Nous, on est les topinambours.
Les topinambours, d'accord.
Les cucurbitacées.
Les cucurbitacées, ouais. D'accord, j'espère ne pas me planter. C'est donc, les topinambours, les cucurbitacées et les jaunes. C'est pas un peu triste, du coup, les jaunes?
Ça fait un peu ça, le jaune.
Les panais, ouais. Moi, j'aime pas les panais de base, donc méfiez-vous. Mais... Ah, moi, j'ai arrêté. Ok. Eh ben, super. Vous êtes prêts? Prêtes et prêts?
Ouais.
Tout à fait.
Alors attention, il faut taper fort sur la table pour qu'on vous entende. Alors, première question. Est-ce que les insectes sont petits?
Non.
Oui.
Et est-ce que tu considères qu'un demi-mètre c'est petit? Est-ce que tu considères qu'un demi-mètre c'est petit?
Un demi-mètre c'est quand même pas très grand.
Alors les autres équipes là, vous en pensez quoi? Est-ce qu'un demi-mètre c'est petit?
Ça dépend de la taille de la personne qui regarde.
Tout est relatif.
Bah, je veux dire, tu croises un type qui fait 50 cm, il est quand même vraiment pas très grand. Quoi.
Oui. Alors certes, mais un insecte qui fait 55 cm, est-ce qu'il est petit?
Non, non, il est
grand. Non.
Est-ce qu'un insecte qui fait 55 cm, il est plus grand qu'un type qui fait 55 cm?
Alors bon, bref, c'est pour dire qu'un insecte, c'est pas forcément petit. Il y a des spasmes qui font 55 cm. Et si vous vous réveillez le matin et que vous tombez sur un truc de 55 cm devant votre gueule, eh ben, je suis sûr que vous ferez la gueule.
C'est clair.
Donc, un insecte, ce n'est pas forcément petit. Donc, faux. Donc, c'est simple. Quand une équipe se trompe, c'est moins un point. Donc, ça fait donc 0, moins 1, 0. Ouais. Deuxième question. Attention, deuxième question. Les gorilles et les chimpanzés mangent des bananes. Oui, les jeux panais, pas bon.
Ça peut arriver.
Alors développez s'il vous plaît.
Bah, je pense que si jamais il a une banane à portée de main, il va la manger.
D'accord, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que quelqu'un a une réponse, peut-être une autre équipe qui aurait une réponse un peu plus nette à affirmer? Alors tapez sur la table, vous ne respectez pas les règles. Oui.
Oui, bah c'est le régime de il mange ça tous les jours quoi, c'est son régime, ils habitent dans les bananiers donc mangez bananes.
Ok, eh ben non, c'était faux. Ouais, moi, je pense. Alors en fait, en vrai, malheureusement, enfin ou heureusement pour eux, je sais pas, les gorilles et les chimpanzés qui sont dans les zoos mangent des bananes. Mais en fait, ça vient d'Amérique latine et que les gorilles et les chimpanzés, en fait, n'ont pas ça dans leur état naturel. Et donc les grosses plantations de bananes, eh ben non, ils y ont pas accès. Et en général, ils y vont pas parce qu'il y a des humains et que c'est dégueulasse. Donc c'est faux. En général, les gorilles et les singes ne mangent pas de bananes.
Mais alors qui mange des bananes?
Qui mange des bananes? Nous. Nous, les humains, on mange des bananes. Nous, on en mange, ouais.
On n'est pas un peu des singes?
Non, 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 on n'est pas des singes. Alors, toi, peut-être, mais ça moi, je ne suis pas un singe. Question suivante.
Ouais, les scores, les scores.
Donc nous avons moins 1, moins 1, 0.
Moins 1, moins 1, moins 1.
Non, non, lui, c'était trop flou. Et pourtant, j'aime pas les panais, donc voilà, je suis neutre. Question suivante. On ne peut pas toucher un oisillon, sinon sa mère l'abandonnera. Alors, on se calme. Donc, c'est qui vous déjà là? C'est pas les topinambours, non, c'est les cucurbites. Ok. Donc, les cucurbites, s'il vous plaît, allez-y. Réponse?
Eh bien, oui, c'est vrai. Parce que du coup, on va porter l'odeur sur l'oisillon et du coup, la mère, elle va plus pouvoir le
toucher.
C'est
faux!
C'est faux!
Scandale!
Alors, c'est complètement faux. Parce que, en fait, ils n'ont pas vraiment d'odorat, les oiseaux, malgré ce qu'on peut penser. Ils ont d'autres sens très développés. Et donc, en fait, on peut prendre un oisillon qu'on a trouvé, on peut le remettre dans son nid. Eh bien, la mère va quand même s'occuper de lui. Donc, ce n'est pas ça. Je suis navré. Moins un point. Donc, rappel des scores. Moins 2 pour les cucurbitacées. Moins 1 pour les topinambours. Et 0 pour les panais. Bravo! Alors, question suivante. Les taupes sont-elles myopes? Alors.
C'est
alors, faux. Les panais, c'est faux. C'est-à-dire. Ouais.
Moi, je dis c'est vrai.
Alors, attendez, non, vous êtes pas d'accord entre vous. Donc, je vais donner ça à notre équipe. Les topinambours.
Moi, j'aurais tendance à dire qu'elles sont absolument pas myopes, elles y voient juste que dalle, quoi. Ce qui est pas la définition de la myopie, hein, c'est important.
Je dis qu'il n'y a pas besoin d'être myope pour une taupe parce que sous terre, de toute façon.
Alors, est-ce que les panais avaient la parole?
Pardon, maître.
Moins
pardon,
un point. Pardon, voilà. Pardon. Non, ben non, pénalité. Alors, on va se calmer. Il y a des règles, il faut les appliquer dans la vie. Donc, effectivement, on ne peut pas vraiment dire que les taupes sont myopes. Elles sont taupes, elles voient rien. Mais elles ont des tout petits yeux, mais parce qu'elles sont adaptées au niveau du sol. Donc c'est normal, elles voient rien. Mais elles ne sont pas myopes pour autant. La myopie, c'est effectivement pas ça. Qu'est-ce que la myopie d'ailleurs? Question bonus. C'est pas boire de l'eau? Non, c'est pas ça.
Ne pas voir de loin.
Ne pas voir de loin. C'est ça, c'est bien. Ok. Mais non, c'était bonus, c'était ça voulait rien. C'était
bah, un bonus, c'est bonus.
Un bonus, ouais, ou pas. Tu vois. Donc, rappel des scores. Est-ce que quelqu'un veut faire le rappel des scores, Lucas, qui est impartial? T'as pas suivi, ça sert à rien. Ok, super. Donc, les cucurbitacées, vous avez donc moins 2 points. Les topinambours, vous avez donc 0, bravo. L'équipe des panais, vous avez donc moins 1. Voilà. Faites attention, prochaine triche, ça sera encore un moins 1 supplémentaire. Attention! Les papillons fabriquent des cocons.
C'est faux!
Non, c'est vrai?
Alors attendez. Alors, il faut taper sur la table. Alors on va recommencer une autre question. Non.
C'est les chenilles.
Attention, je vais changer de question. Et là, il faut taper d'abord fort, qu'on vous entende. Et ensuite, vous donnez la réponse.
Taper d'abord et réfléchir après.
Exactement, on tape d'abord, on réfléchit après. Donc, les mouettes et les goélands ne vivent qu'au bord de mer.
Ah bah absolument pas, on trouve des mouettes et des goélands à Paris.
Alors, à titre personnel, je n'ai jamais vu à Paris, mais effectivement, même à Rennes, on trouve des mouettes et des goélands. Il y en a même sur la dalle, effectivement. Donc c'est correct. Et moi je trouve qu'il y en a qui sont un peu lents du tapage sur la table. Hein,
un petit rappel des scores peut-être.
Ouais, c'est important, ils sont d'émuler les autres. Donc les cucurbitacées sont donc à moins 2. Les topinambours sont donc à 1 point. D'accord. Et les panais sont à. Ok, c'est bien. Alors les serpents sont charmés par la flûte. T'as tapé, tu réponds.
C'est faux.
À quel niveau ?
C'est faux à tous les niveaux.
Développe, décortique un peu ton propos.
Je peux pas développer vu que c'est faux.
Ça, moi, je peux développer, par contre.
C'est faux, je développe pas.
Alors, est-ce qu'une équipe est capable de développer ?
Il serait charmé apparemment par la flûte, là. Genre les mouvements de la flûte, ou soit s'il y a un rythme sur le sol qui serait tapé. Par les vibrations, quoi.
Eh ben, c'est tout à fait vrai. En général, c'est... En général, ce sont plutôt les touristes qui sont charmés par le son de la flûte et pas vraiment les serpents. En fait, effectivement, les serpents, on dit que c'est par rapport au mouvement et par rapport à la chaleur que mettent les mouvements. C'est pour ça qu'ils suivraient les mouvements de la flûte. Question suivante. Réponse, tu as tapé, réponse
42.
Non, c'était pas la bonne réponse à la bonne question. Donc c'était bien essayé, malheureusement, moins un point. Donc rappel des scores. Moins un pour les cucurbitacées. Moins 0 pour les topinambours. Moins un.
Mais non, on était à 1, du coup là on est revenu à 0.
Ouais, 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 ça négocie, faites attention. Dernière équipe, les panais, vous êtes à
moins 1.
Ok, très très bien. Les hérissons mangent des plantes et boivent du lait. Cinq, quatre.
C'est vrai. Je... Oui. Si, si, ça me semble bien juste. J'ai vu un hérisson une fois dans mon jardin, je lui ai donné du lait et il l'a bu. Et je me suis dit qu'il était dans les plantes. Il devait peut-être en bouffer de temps en temps.
Alors, comment dire cela ? De base, comme tous les mammifères qui consomment du lait, donc on pourrait dire que les hérissons consomment de lait quand ils sont petits. Sauf que y a certains humains qui mangent dans les poubelles aussi. Voilà, ça arrive. Par contre, les hérissons, en fait, ils peuvent être opportunistes, mais d'abord, c'est des insectivores, donc ils ne mangent pas de plantes. Et ils ne mangent, a priori, pas de lait comme ça. Donc, je suis navré, c'est plutôt faux. Donc, c'est plutôt moins un. C'est quand même bien essayé. Donc, rappel des scores.
On peut changer de sens.
On change de sens. Panais.
Moins un.
Moins un. Topinambour. Moins 1.
Moins 1, moins
1. Moins 0.
Et moins 2 pour les cucurbitacées.
À cause de ta question.
Ok. Ah, ça c'est une question que j'aime bien.
On était à plus 1, on a perdu un point.
Ouais, bon, ça conteste. Moins 1 point. On va réguler, ça va être beaucoup plus simple. Alors, question suivante. Les chauves-souris se prennent dans nos cheveux. Alors, vas-y.
Non, je pense que c'est faux, parce que si elles se prennent dans nos cheveux, c'est qu'elles ont un sacré problème de radar.
Eh ben, c'est juste, effectivement. Eh ben, c'est vrai, les chauves-souris ne se prennent pas dans les cheveux des gens, malgré le mythe populaire qui voudrait que... Ah non, mon Dieu, mes cheveux. Eh ben non, effectivement, leur radar permet de détecter... s'ils arrivent à détecter des insectes qui se baladent, ils arrivent tout à fait à détecter une petite niasse de cheveux. Alors, question suivante. Le loup est-il dangereux pour l'homme ? Alors, j'ai pas entendu, j'ai pas vu qui avait tapé d'abord. Il me faut un avis extérieur.
Non, il est pas dangereux pour l'homme, il a plutôt peur de l'homme.
Ça va être réponse acceptée. Effectivement, en ce moment, les loups n'ont pas tellement peur des humains. D'ailleurs, même s'ils leur proposent des brebis à déguster, ils ne sont pas forcément contre. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Hein, ça arrive à des gens très bien. Donc oui, effectivement, tu as raison. Les loups sont plutôt craintifs et c'est pas vraiment dangereux pour l'homme. Ils ont plutôt peur de nous. Donc, ça vous fait un point supplémentaire. C'est bien. Vous êtes presque à zéro. Question suivante. Les renards, les blaireaux, les fouines sont nuisibles.
Bah absolument pas.
À quel niveau ?
Bah en fait, ça dépend ce qu'on appelle nuisible. Mais si c'est nuisible en général, et j'imagine pour l'homme, non. Et par rapport au reste, non plus. Alors, sauf par rapport aux gens qui bouffent. Hein, ça arrive. Ouais, genre par exemple, typiquement, les bestioles qui se font bouffer par un renard, bon, elles ont tendance à considérer le renard comme étant un peu nuisible. Mais bon, ça c'est pareil, c'est normal.
Bon, en fait, c'est malheureusement un questionnaire qui est anthropocentré. Donc, les questions sont plutôt orientées vis-à-vis des humains. Donc, c'est par rapport aux humains. Donc, voilà. Effectivement, le lapin qui s'est fait bouffer par le renard, a priori, il est plutôt nuisible. Mais voilà. Donc, par rapport aux humains, donc, la réponse était plutôt non. Et effectivement, on est sur des critères qui sont relatifs. Et les renards, les blaireaux et les fouines sont plutôt, en fait, des aidants. Ils se débarrassent des carcasses, des charognes. Ils ont plutôt une aide, en fait, pour notre mode de vie, plutôt qu'un nuisible. Voilà. Donc, c'est juste. Donc, plus un point.
Yes.
Bravo.
On passe à un, là, du coup.
Alors, question suivante. Les papillons mangent du pollen. Ça m'intéresse.
Alors non, c'est faux. Parce que les papillons se nourrissent plutôt de certaines plantes. En particulier, genre un papillon se nourrit d'une seule plante, il me semble. Et il transporte après le pollen de la fleur sur les autres fleurs en se nourrissant des différentes plantes. Mais il mange pas le pollen, il transporte juste.
J'irais même jusqu'à dire qu'il bouffe plutôt le nectar, en fait.
Voilà, alors le truc, c'est qu'il y a eu deux réponses par la même équipe. Donc il y a eu des trucs justes et des trucs faux dans ce qui a été dit. Et donc on va plutôt donner la parole à une autre équipe.
Ouais, je suis pas d'accord avec les plantes, moi.
Alors qu'est-ce que le panneau a à dire là-dessus?
Il mange du nectar, le papillon. Est-ce qu'il a une trompe? Et il a pas de dents.
Alors c'est tout à fait vrai. Le papillon ne mange pas de pollen, il mange du nectar. Et effectivement, de fait, il transporte le pollen, mais il ne le fait pas exprès. Et par contre, c'était tout à fait juste de dire qu'il s'intéresse à certaines plantes ou certaines fleurs en particulier. Il va pondre dans certaines. Voilà. Mais c'était pas la question à la réponse. Et inversement, c'était pas la réponse de la bonne question. Donc malheureusement, c'était.
Le point pour nous!
Pour les panais. Fais attention parce que les sales crâneurs, moi, c'est moins un souvent. Hein. Donc on récapitule et on posera enfin la dernière question. Donc nous sommes à
moins un.
Moins un. Intéressant.
Non.
Non. Je vous avais retiré un point tout à l'heure. Donc vous êtes à zéro. Zéro. Zéro et zéro.
Déjà tu nous piques la question.
Alors, est-ce que quelqu'un veut bien faire un roulement de tambour, s'il vous plaît? Question, ultime question. Les météorites sont des étoiles filantes.
Faux. Faut taper.
Alors, équipe des topinambours.
Alors, faux, c'est les étoiles filantes qui sont des météorites.
Alors
moi je n'irai pas jusque là.
C'est bien essayé, mais c'était pas ça.
Je peux compléter un peu ou...
Non, on ne complète pas, c'était votre réponse. Ensuite, est-ce qu'une dribe a une autre réponse? Je donnerai la réponse à la fin. Les cucurbitacées, s'il vous plaît.
Jacques.
Je suis pas sûr.
Tu veux pas parler sur
une concert, toi.
Moi je dirais que c'est des bouts, donc oui.
C'est des bouts, c'est-à-dire. Développez les propos. Arrêtez de taper, sinon c'est moins deux. Développe, s'il te plaît, l'équipe des cucurbitacées.
Bah,
on
oui.
va donner la parole au topinambour parce que.
Non, oh, mais si c'est oui.
Les panais, vous savez pas, vous avez pas des.
On sait. Bah ça marche pas.
On va laisser la parole au panais pour l'instant parce que ils sont trop lents.
Bah, la météorite n'est pas. Enfin, l'étoile filante n'est pas née. Et la météorite, elle est tombée au sol. Donc c'est faux.
Ouais.
Parce que la météorite, la météorite en vol est pulvérisée et. Du coup, c'est plutôt une météorite pulvérisée, l'étoile filante. Et la météorite en tant que telle, c'est soit quand elle est dans le ciel.
On s'approche de la réponse. On va laisser une chance au cucurbitacé de pouvoir répondre. Non, mais vous arrêtez pas de parler là, les topinambours. Bah, vous vous calmez.
Donc en fait, pour moi, une étoile filante, c'est la météorite qui brûle. Et du coup, une fois qu'elle a brûlé, c'est plus une météorite. Du coup, une étoile filante, c'est juste la combustion. Voilà.
Alors, la question c'était, est-ce que les météorites sont des étoiles filantes? Donc, il faut savoir qu'il y a des météorites qui se baladent et qui ne deviendront peut-être jamais d'étoiles filantes. Parce que tant qu'elles ne rentrent pas dans une atmosphère et que ça ne désagrège pas, ce ne sont pas des étoiles filantes. Donc, une étoile filante, c'est les poussières qui sont dégagées quand une comète arrive dans l'atmosphère. Et donc, nous avions des débuts de réponses, mais malheureusement, il n'y avait vraiment pas une seule réponse vraiment juste. Donc malheureusement ça sera moins 1 pour tout le monde. Donc on va faire un rappel des scores. Donc l'équipe des cucurbitacés, vous avez donc
Moins 2.
L'équipe
Moins 1.
Et l'équipe des dépannés, moins 1. Malheureusement, comme personne n'a atteint les zéros, je ne vais pas pouvoir départager les épiques et les équipes. Malheureusement, vous avez tous perdu. Je suis désolé. En tout cas, c'est très gentil d'avoir participé. Et je vous donne les petites références du petit ouvrage qui m'a permis de poser ces questions, qui s'appelle « Toutes les bêtises sur la nature que les grands racontent aux enfants ». C'est assez instructif parce qu'il y a des illustrations assez sympas et ça permet de déconstruire pas mal un peu de mythes ou de petites histoires qu'on a sur les animaux qu'on croit savoir, même quand on est grand, et qu'en fait, c'est pas vrai. Donc c'est un bouquin aux éditions de La Chaux et Nestlé, de François Lasserre et de Roland Garrigue. Voilà, merci d'avoir participé, c'était très intéressant.
Merci.
C'était vraiment très intéressant.
Le tango, on glisse comme un tour de
L'émission.
L'émission.
Radio.
Ok. We will do.
Oh, ouais.
Maybe we'll do both.
Non, il faut terminer l'émission en beauté.
Parler sur la musique, c'est ça?
Exactement, c'est ça le principe.
On est bien sur le plateau de Radioactive, sur la place Kennedy, sur la dalle Kennedy, voilà, avec toutes les personnes, les membres de Radioactive et aussi des organisateurs de l'SDE et aussi des bénévoles et passants.
Des intrus,
on va pas dire ça.
Il fait toujours grand soleil et à peu près 30 degrés, hein, on estime, selon la station climat de la SDE.
C'est ça.
Ok.
Wow.
Il fait beau, il fait chaud, on est bien. Voilà, peut-être est-ce qu'on peut débriefer voilà, tout ce qui s'est passé cet après-midi. Je sais pas comment vous l'avez vécu, toi, Anna. Donc,
bah,
tu es partie de l'équipe.
Super journée, c'était trop cool. Il y a eu pas mal de gens à passer, beaucoup de gens à venir manger et voir tout ce qui s'est fait aujourd'hui. En plus, on avait le beau temps avec nous et ça, c'est top. Moi, j'ai eu que des retours positifs, donc c'est cool.
Super, tout a fonctionné. Là, ça commence à ranger, quoi.
Ouais, carrément. Là, on va attaquer le rangement dans pas longtemps. Et puis, avec tous les petits gens autour de nous qui vont venir nous aider, ouais, c'est top.
Ok, super. Toi, Yann, t'as eu des retours aussi, un peu?
Pas beaucoup, hein. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques personnes ici et là. Et c'était sympa, mais j'ai passé une journée plutôt tranquille à regarder ce qui se passait, moi.
Oui, de toute façon, vous avez pu entendre tout ce qui s'est passé là pendant cette heure et demie de diffusion. Voilà, donc là, on passe jeudi après-midi là, mais donc là, on est le mercredi 17h15. Et voilà, du coup, je pense on peut clôturer ce plateau radio qui était sur la dalle. Je ne sais pas si vous avez des retours à nous. Toi, ça s'est passé comment
Moi, ça s'est bien passé. J'ai eu des belles réponses, voilà, toutes différentes, puisque mes questions étaient toutes uniques, mais des réponses très très différentes et très jolies, ouais. Moi, je suis contente.
Bah, peut-être, Elsa, par contre, toi, tu peux nous parler un peu de...
Ah oui, de l'échec de l'atelier chronique. Ben ouais, parce qu'en fait, du coup, on voulait faire des chroniques, enfin, faire un atelier d'écriture. Et puis finalement, c'était pas facile de constituer un groupe parce que... Eh ben oui, effectivement, soit les gens, ils viennent pour manger, soit ils viennent pour, à la limite, recevoir quelque chose. Mais disons que là, c'est difficile sur cette place qui est assez passante. Quand même, la dalle Kennedy, d'intercepter les gens. Donc j'ai réussi un peu à discuter avec certaines personnes, à leur expliquer ce qui se passait ici, mais de là à ce qu'ils veuillent venir passer une heure à écrire quelque chose, c'était pas évident, donc faudra revoir le concept. Mais je perds pas espoir de réussir à le faire un jour. Voilà.
Bah, de toute façon, comme ça, t'as pu nous aider à interviewer un peu les gens et à faire des trucs.
Voilà, puis j'ai quand même discuté avec des gens, mais qui n'avaient pas forcément envie de parler à la radio, etc. Mais oui. La nourriture a été un bon lieu pour discuter avec des gens qui habitent ici, par exemple.
C'est, ouais, je partage un peu cette analyse-là. En fait, c'est jamais évident d'intervenir sur l'espace public. Et voilà, et donc il y a des choses qui passent plus facile que d'autres. Effectivement, quand on propose à manger, c'est toujours beaucoup plus simple que de faire venir des gens et les faire parler dans un micro, parce que c'est un peu plus intimidant de parler dans un micro que de manger une galette, mais effectivement faut le travailler, et voilà, moi je suis assez content de mon après-midi aussi, voilà. Ça m'a fait rigoler, en tout cas moi.
C'était bien, il y avait des gens, 20-25 personnes, et du coup voilà, des gens qui ont pu être initiés justement derrière un micro, par exemple.
Et j'ai aussi le plaisir d'interviewer aussi Anouk avec ses propres questions. Donc on ne sait pas si ça va sauter au montage ou pas. Ça sera la surprise.
En plus, c'est moi qui fais le montage, donc je choisirai.
Voilà, en tout cas, moi j'aurais bu un bon jus de fruits et de légumes et une bonne crêpe qui ont marché tout l'après-midi. Là, ils sont à fond. Hein. Et bah, bravo en tout cas aux organisateurs. Et on se retrouve normalement mardi prochain. Tu veux dire notre truc,
oui,
Anna?
Et la SDE continue jusqu'à samedi soir. À partir de demain soir, ça aura lieu principalement au Gaïeul. Mais il y a des conférences tout au long de la semaine jusqu'à la fin de ces 10 jours d'événements. Et donc toutes les informations sont sur le Facebook et le site internet.
Super, s2.rennes.wordpress,
oui,
ou semaine
de l'environnement, Rennes, vous trouverez. Ouais,
ouais, super. Google a référencé.
C'est ça.
Très bien, super. Et ben, bonne journée à tous et on espère qu'on se revoit bientôt, et voilà.
Et que vous continuez de nous écouter sur Radio Campus.
Salut, à bientôt.
À bientôt.
Ok, c'est cool, trop bien.
Oui, donc je prends la suite d'Anouk parce que c'est pas parce qu'elle pose des questions qu'elle ne peut pas y répondre, sinon ça serait un peu facile. Donc on va commencer. Alors avec la première question, environnement ou écologie ?
Alors moi je dirais environnement parce que ça concerne tout ce qui nous entoure. Il faut écologie aussi, on peut le prendre en compte, mais il faut l'environnement c'est beaucoup plus large et je pense que quand on parle d'écologie, là je mélange les deux du coup, mais quand on parle d'écologie, il faut voir tout autour de nous et il faut voir dans tous les aspects de la vie. Voilà.